et non pas en fonction d'un écrit. Comprenons ça tout de suite. Saint Thomas a l'air de dire ici quelque chose au contraire. Il nous dit ici, la grâce et la vertu imitent l'ordre de la nature. Imitent l'ordre de la nature. Donc, c'est l'ordo naturel. L'ordre de la nature. L'ordre de la nature tel que la sagesse de Dieu les a mis. Et la grâce imite ça. Alors, c'est la nature qui mesure la grâce. Et je suis alors devant une théorie tout à fait différente. Vous savez bien, la grande querelle d'Eauxilis entre les jésuites et les dominicains qui a duré 200 ans. N'est-ce pas ? Grande querelle. Il a fallu que Rome demande aux théologiens. De ce temps-là, il y avait des théologiens qui croyaient encore, vous voyez. Alors, ils se disputaient fort, avec force. Qu'est-ce que c'était que cette dispute ? C'était ça. Les dominicains soutenaient que la grâce, elle est au rythme de la très sainte Trinité. Les jésuites disaient pas du tout. La grâce perfectionne la nature, et donc elle doit être selon l'ordre de la nature. Et cette lutte a duré 200 ans. Puis à un moment donné, l'Église a demandé de se taire, et alors évidemment, à ce moment-là, c'est l'autre point de vue qui a dépassé le premier. Oui. C'est plus facile de dire que la grâce doit imiter l'ordre de la nature que de dire que la grâce nous met au régime de la très sainte Trinité. Il n'y a qu'à réfléchir hein, dans tous les problèmes que vous avez. Toujours, hein, la grâce qui implique la foi, l'espérance et la charité. Bon, les trois vertus théologales, et il faut bien comprendre, ça c'est très très important, les trois vertus théologales ont des objets propres. Et parce qu'ils ont des objets propres, ils nous mettent au rythme même de la très sainte Trinité. C'est parce que j'atteins immédiatement Dieu par la foi que je suis illuminé de la lumière de Dieu. C'est parce que j'atteins immédiatement Dieu par l'espérance que je peux me mettre au rythme du Père et de sa miséricorde. Et c'est parce que j'atteins immédiatement Dieu par la charité que je peux me mettre au rythme de Dieu. Tandis que dans la théorie des pères jésuites, qui était la théorie de Suarez, et que les pères jésuites suivaient, eh bien, la grâce est ordonnée à la nature, en ce sens que la grâce perfectionne la nature, et la grâce n'a pas d'objet propre. La grâce simplement donne une modalité nouvelle, sans avoir d'objet propre. Une modalité nouvelle. Une modalité nouvelle, tout simplement, qui est de l'ordre de l'efficacité. Par la grâce, je mérite le ciel et la béatitude surnaturelle. Vous voyez, alors là, le mérite. Vous comprenez la réaction des protestants. Parce qu'au fond, on ne voyait plus les vertus théologales qu'au niveau du mérite. Donc au niveau de l'efficacité. Et on ne voyait pas, premièrement, les vertus théologales du côté de leur objet. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que les Calvin s'appuyait sur saint Thomas contre les jésuites. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des calvinistes, des durs parmi les calvinistes, qui sont thomistes. Ils se disent thomistes, parce qu'ils ils prennent pas tout dans saint Thomas, hein, c'est bien évident, ils font leur choix. Mais ils prennent dans saint Thomas la théorie de la grâce. Que la grâce implique un point de vue, un nouvel objet. La foi a un nouvel objet. Un objet qui est la vérité première en tant que révélée. L'espérance a un nouvel objet, et donc il y a un rythme de vie qui est nouveau. Ma vie divine a son rythme propre, qui n'est pas le rythme de ma vie humaine. Et bien, saint Thomas qui dit ça, en voyant les vertus théologales, ici donne l'inverse. Alors, Suarez, qui est thomiste, et qui choisit dans saint Thomas, comme Calvin, ce qui l'intéresse, choisit ça. Vous voyez, c'est très curieux. Et c'est ça, c'est intéressant, ça. Donc, la grâce et la vertu imitent l'ordre que la sagesse divine a mis dans la nature. Ça, c'est dit textuellement dans saint Thomas. Imitantur, gratia virtus, imitantur, imite l'ordre de la nature, qui est institué par la sagesse divine. Or, conformément à cet ordre, tout agent naturel fait sentir son action avant tout et surtout aux êtres les plus rapprochés de lui. C'est ainsi, par exemple, qu'agit le feu. C'est bien évident, quand vous êtes plus proche de la source du feu, normalement, vous recevez plus les effets du feu. C'est ainsi extraordinaire de se mettre très loin du feu et de capter les effets du feu plus que celui qui est tout près. Oui, c'est du bon sens, hein, tout simplement. C'est le bon sens de l'ordre de la nature. Or, conformément à cet ordre, tout agent naturel fait sentir son action avant tout et surtout aux êtres les plus rapprochés de lui. C'est pour ça que quand le Seigneur dit que les derniers seront les premiers, l'ordre de la nature, il en prend un gros coup. Les derniers seront les premiers. Hein. Ceux qui sont le plus loin du feu, ils vont être les premiers dans la béatitude. Vous voyez ça, ils auront le plus chaud dans la béatitude. C'est extraordinaire. Ça a l'air de rien, on répète ça, nous, comme ça, hein, habituellement. Mais il faut voir ce que c'est, ce que ça représente. Les derniers seront les premiers. Normalement, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Or, conformément à cet ordre, tout agent naturel fait sentir son action avant tout et surtout aux êtres les plus rapprochés de lui. C'est ainsi, par exemple, qu'agit le feu. Dieu lui-même n'agit pas autrement. Vous voyez l'analogie, qui est presque une univocité ici. Hein. Dieu n'agit pas autrement, Dieu le feu. Il répand les dons de sa bonté, d'abord, et en plus grande abondance sur les créatures les plus proches de lui, comme le dit Denis. Mais attention, je suis le plus proche de Dieu parce que Dieu m'a fait ses bienfaits plus grands. Alors il n'y a pas de pétition de principe là. Mais si je suis plus proche de Dieu, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la grâce que Dieu m'a donnée. Et Dieu m'a donné cette grâce parce que j'étais plus proche de lui. Mais pas du tout, alors ça ne va pas. C'est, on ira à l'infini comme ça. Vous voyez cette petite question, hein, c'est, lisez ça comme ça alors. Il répand les dons de sa bonté d'abord et en plus grande abondance sur les créatures les plus proches de lui, comme le dit Denis, on s'appuie sur Denis comme c'est pas très clair. Or, être bienfaisant, c'est agir par charité envers les autres. Or, être bienfaisant, c'est agir par charité envers les autres. Il faut donc faire plus de bien à ceux qui nous touchent de plus près. Très curieux comme raisonnement. C'est un raisonnement qui est extraordinaire. Parce que c'est tout à fait univoque. Hein. Mais entre les hommes, le rapprochement peut être aussi divers que les relations qui l'opèrent. Parents, concitoyens, fidèles, unis par les liens de sang, de la patrie, de la religion, et ainsi du reste. Chaque liaison à sa manière de bienfaisance, dont voici la loi générale sous sa forme absolue. Celui qui nous est plus uni dans un certain ordre de choses a droit à plus de bienfaits de ce même ordre. Il nous est plus uni au point de vue de l'intelligence. Je dois donc être plus attentif à lui pour l'inonder davantage de la vérité. Hein, c'est bien ça. Cependant, cette loi doit se plier aux diversités des lieux, des temps et des réalités. Par exemple, il faudra secourir un étranger en extrême nécessité, de préférence même à un père dont le besoin est moins pressant. C'est très curieux. Alors, comment expliquer ça? On va regarder d'abord peut-être les objections, parce que souvent la réponse aux objections éclaire beaucoup. Parce que si je prends ce principe, c'est très clair ce que dit saint Thomas. Hein. C'est très clair, mais ça a l'air d'aller quand même pas mal contre pas mal de choses que saint Thomas a dit. Je prends l'ordre de nature et je dis que cet ordre de nature, qui est un ordre de sagesse, doit m'éclairer sur l'ordre bienfaisant. Alors, évidemment, il y a quelque chose que tout de suite vous sentez qui peut nous aider. Hein. L'ordre de bienfaisance n'est pas l'ordre d'amour. C'est un ordre d'efficacité. Dans l'ordre de l'efficacité, attention. Dans l'ordre d'efficacité, c'est tout à fait autre chose qu'un ordre d'amour. Hein. L'ordre de bienfaisance, c'est bien faire le bien, vous voyez. J'ai un devoir de faire un bien plus immédiat à ceux qui sont plus proches de moi que ceux qui sont plus lointains. Quand on vit autour de personnes, on doit normalement respecter davantage ceux qui sont plus proches. Vous voyez, c'est un ordre d'efficacité, parce que la bienfaisance, faire du bien, c'est l'efficacité.
L'efficacité découle pas de l'amour.
L'efficacité découle de l'amour, mais faisons attention, ce n'est pas automatique. Il y a la prudence, un ordre prudentiel. C'est un ordre prudentiel que je cherche ici. C'est l'ordo. Tout ordre relève de l'intelligence. Vous voyez ? Et donc, entre l'amour et l'efficacité, il y a l'intelligence prudentielle, éclairée par la foi. Et c'est cet ordre prudentiel éclairé par la foi que je cherche. Et donc, ce n'est pas automatique. Oh, comme je t'aime, je serai tout le temps auprès de toi. C'est pas vrai. C'est pas parce que je t'aime que je serai tout le temps auprès de toi. Non, pas du tout. Parce qu'il pourra y avoir quelqu'un qui aura beaucoup plus besoin de ma présence physique que toi. Oui, ça c'est excellent pour guérir les jalousies. Vous voyez ? Je dis, mais fais attention, vois la différence entre l'ordre intérieur d'affection et puis l'efficacité. J'arrose davantage les petites plantes qui ont plus besoin, qui s'effritent et qui sont plus proches de moi. Elles ont besoin d'un arrosage plus immédiat. Mais l'ordre de l'efficacité, ce n'est pas l'ordre d'amour. Donc c'est un ordre visible. C'est un ordre visible celui-là. Et c'est pour ça que saint Thomas fait appel à l'ordre de la nature. Alors vous voyez la confusion entre l'affectif et l'effectif. Hein ? L'affectif, c'est un ordre intérieur où on est au rythme de la très sainte Trinité. Affectivement, je suis au rythme de la très sainte Trinité. Mais dès qu'il s'agit d'être source de bienfaits, c'est source de bienfaits, de donner mon temps. Donner mon temps, c'est source de bienfaits. Hein. Ça, c'est bien évident, donner son temps. C'est la seule chose que possèdent ceux qui ont fait de votre pauvreté. Ils ont encore leur temps, qui ne leur appartient pas, parce qu'ils doivent nécessairement avoir un temps qui est réglé selon l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est la seule chose qu'on possède, c'est le temps. Alors ce temps, comment va-t-on le donner ? Est-ce qu'on va le donner selon l'ordre de la très sainte Trinité, ou la très sainte Trinité dans l'éternité ? L'éternité ne peut pas mesurer mon temps. C'est absolument impossible, pas ? Dieu a l'avantage d'être dans l'éternité, donc il peut être totum simul, tout entier en même temps, à chaque instant. C'est le problème résolu. Tandis qu'au contraire, nous qui sommes dans le temps, il y a une juxtaposition. On ne peut pas, on n'est pas totum simul. On n'est pas tout entier, entièrement. On est juxtaposé. On donne successivement. Et ce qu'on donne à l'un, on ne peut pas le donner à l'autre. C'est ça qui est très très ennuyeux. À moins que Dieu fait une bilocation. Mais autrement, normalement, on ne peut pas. Là, à ce moment-là, il met deux bouches d'arrosoir pour donner deux, en même temps. Deux. Mais autrement, il ne peut pas le faire. Il peut pas, la bilocation, ça ne peut pas se faire. Donc, je suis obligé d'être dans le temps. C'est l'ordre du temps. Et l'ordre du temps, c'est l'ordre de la nature. Vous voyez comment l'efficacité, elle est dans le temps, et donc elle dépend de la sagesse de Dieu. Et l'erreur de Suarez, vous voyez, c'est d'avoir confondu l'ordre d'efficacité et l'ordre affectif. L'ordre d'amour intérieur. Oui, c'est ça qui me semble être. Alors à ce moment-là, je comprends pourquoi. Il s'agit d'un ordre visible, je suis dans le temps. Donc je prends l'ordre nature, qui est selon la sagesse de Dieu. Et je me sers de ça, ça me sert d'exemple. Ça m'aide à comprendre, vous voyez. Ça me donne comme. Et ça devient une loi générale. Hein. Il ne dit pas un principe, une loi générale. On est dans le conditionnement. Donc on n'est pas dans l'ordre de la finalité. On est dans l'ordre du conditionnement. On est dans l'ordre du temps. C'est quand même très important pour nous, ce problème du temps. Comment un supérieur ou un responsable ou de responsable doit-elle mesurer son temps? Elle demande l'éclairage d'en haut, à la sagesse de Dieu. Mais sa prudence doit être proche de la sagesse de Dieu. Et sa prudence lui permettra alors de comprendre l'ordre de la nature. Vous voyez, on va regarder les objections, vous allez mieux comprendre. L'Évangile sans dire le contraire. Donc devons-nous faire plus de bien à ceux qui nous sont plus unis? L'Évangile semble dire le contraire. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents. En un mot, ceux qui nous sont le plus unis, mais invite des pauvres, des estropiés, ceux qui ne te rendront jamais, quoi. C'est évident que c'est très très beau comme exemple. Eh hein. Bien, ça c'est là où l'Évangile semble être dans un ordre de folie, comparativement à la sagesse de la nature. Alors, le théologien, lui, il dit ça, donc il est en opposition vis-à-vis de l'ordre de l'Évangile. Réponse de saint Thomas. Notre Seigneur ne défend pas purement et simplement d'inviter parents et amis à dîner. On voit très très bien. Ça, c'est. Dominus non prohibet simpliciter vocare amicos aut consanguineos ad convivium. Non, il ne fait pas ça le Seigneur. Mais de le faire avec l'intention d'être invité en retour. Autrement dit, invite gratuitement, donne gratuitement. Ce qui ne serait plus de la charité, mais de la convoitise. Je vais inviter telle personne, je sais qu'elle me réinvitera beaucoup mieux que je ne peux l'inviter. N'est-ce pas ? Elle sera bien meilleure. Alors je l'invite, et elle me réinvitera, mais la convoitise. C'est ça que saint Thomas dit. Il avait très bien compris. Le cas peut cependant se présenter où il faudrait plutôt inviter des étrangers si leur indigence est plus grande. Il reste bien entendu que toute chose égale d'ailleurs. Les plus unis ont un droit de priorité. Mais s'il y a conflit entre un plus uni et un autre plus besogneux, le recours à une règle universelle n'est pas possible, car divers sont les degrés d'indigence et d'union. Ah, ça, c'est très beau. Vous ne pouvez pas avoir de règle absolue. Regula universali. Non potest determinari. C'est la prudence. On ne peut pas dire que ça doit être comme ça automatiquement, selon un barème. Le plus besogneux, le plus ennui, le plus ami, d'un côté je mets les plus unis, d'autre côté les plus misérables, puis je fais l'addition, et puis je vois comme ça, voilà la règle générale, pas du tout. dans chaque cas particulier, il faut essayer de comprendre. C'est à la prudence d'être juge. Vous voyez, c'est bien à la prudence. C'est doc requirit prudentia judicium. Pourquoi la prudence? Parce que vous voyez, quand il s'agit d'un acte intérieur d'amour, quand il s'agit d'un acte de foi, d'espérance et de charité, l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité intérieure ne passe pas par la prudence. Tandis que tous nos actes extérieurs passent par la prudence. C'est là qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que c'est la bienfaisance. Ce n'est pas un acte d'amour. Un acte d'amour, c'est différent.
Est-ce que nos actes extérieurs ne peuvent pas passer directement ou être mis directement dans l'ordre affectif?
Par l'Esprit Saint.
Oui.
L'Esprit Saint est donc conseil qui va transformer la prudence. Mais pas directement.
Peut-être directement.
Ce sera quasi directement par les dons du Saint-Esprit.
Voilà, une charité infuse.
Je dirais, au point de vue psychologiquement, nous avons l'impression que c'est spontané.
Mais en fait, il y aura toujours, qui pallie en fait à cet ordre de la nature.
Et qui vient nous donner, alors à ce moment-là, quel est de fait l'ordre que nous devons prendre. C'est constamment comme ça au point de vue de la prédication, vous voyez. Faut-il mieux être un curier ou un saint Jodard, hein? Vous voyez, c'est un... Alors, l'ordre de proximité, l'ordre d'indigence. Vous voyez tout de suite les problèmes qui peuvent se poser au point de vue apostolique. C'est vrai. Et c'est la prudence éclairée par le don de conseil. Et c'est Dieu qui éclaire. Il n'y a pas de règle absolue. En tant. Alors on mesurerait comme ça. Non. Alors, voyons maintenant la seconde objection. Vous me direz quand il faut arrêter. Ça me parle de l'article. Non, pas terminé. Oui, mais il est long. Hein. Ah, la seconde. La seconde objection. L'assistance prêtée pendant la guerre est un très grand bienfait. Or, un soldat doit la prêter à un étranger qui est un allié plutôt qu'un parent qui est un ennemi. Oui, cas de conscience. Oui, ça, hein, cas de conscience, on voit bien. J'ai un parent qui est un ennemi, en cas de guerre. J'ai un ennemi qui est un allié. J'ai un étranger qui est un allié. Je dois prêter à l'étranger. Réponse. Le bien public, bonum commune, disons pas le bien public, disons le bien commun, c'est mieux. Hein? Le bien commun est plus divin que le bien individuel. Aussi, est-ce un acte de vertu que de risquer sa vie pour ce bien-là dans l'ordre temporel ou dans l'ordre spirituel. Dès lors, la guerre étant la défense du bien commun, le soldat qui aide son camarade voit en lui non plus l'individu, mais la patrie elle-même. Rien donc d'étonnant à la préférence dont l'objection fait. C'est celui qui coopère avec moi pour le bien commun. Et celui qui coopère avec moi pour le bien commun, dans un cas de danger, eh bien, passe avant que celui qui serait le parent. Et qui serait plus uni affectivement. Un étranger que je ne connais pas du tout. Mais il lutte avec moi. Oui. Ça peut exister dans les luttes théologiques. Vous voyez, hein, dans les luttes théologiques, quelqu'un que je ne connais absolument pas, mais qui, de fait, a les mêmes points de vue, qui défend la vérité, qui défend l'enseignement actuel de l'Église, qui défend ce que le Saint-Père dit, eh bien, je dois le faire passer avant celui qui, pourtant, je l'aime beaucoup, on est du même ordre, on se connaît, on a fait le même noviciat, on s'aime beaucoup, mais il dit des bêtises, il est encore adverse.
Il risque résout toutes ces objections à un niveau prudentiel.
Prudentiel.
Est-ce qu'on se garde malgré tout toujours la possibilité qu'un don de conseil du Saint-Esprit puisse en fait s'enfoncer dans une solution
proposée? C'est pour ça qu'il vous dit que ce n'est pas une règle universelle.
Oui, donc en fait, c'est prudentiel humain, mais...
C'est ça, c'est prudentiel humain. Alors, il montre au point de vue prudentiel la loi normale et il donne le principe. Voilà le principe. Il donne l'exemple. C'est plutôt pas un mode d'exemple.
Voilà, en espérant que la prudence
du c'est
Dieu,
ça.
C'est totalement...
Mais s'il n'y a pas, venez, on prie, et l'Esprit Saint peut très bien respecter ça. Et dans d'autres cas, l'Esprit Saint peut très bien. Bon, troisième objection. Avant de donner à qui l'on ne doit rien, il faut rendre à qui l'on doit. Je connais comme ça quelqu'un qui est d'une générosité extraordinaire, mais qui a des quantités de dettes. Mais il est d'une générosité extraordinaire. Alors ses amis qui sont à côté de lui, c'est quand même, il devrait d'abord payer ses dettes. Puis il n'ose pas, puis il est mu par le Saint-Esprit. C'est vrai, c'était exactement des choses comme ça qu'on voit, je vous affirme. Et on vous demande conseil, ce qu'il y a de bon. C'est pas comme du tout. Donc, avant de donner à qui l'on ne doit rien, il faut rendre à qui l'on doit. Puisque la reconnaissance est une espèce de dette. Il faut donc faire du bien à ceux qui nous en ont fait avant d'en faire à nos proches. Alors, réponse de saint Thomas. Il y a dette et dette. Duplex est dubitum. Toujours la distinction de saint Thomas et le normand. La dette est double. Duplex, la dette. Il y a dette et dette. Dans un premier cas, ce qui est dû appartient moins au débiteur qu'au légitime possesseur. Par exemple, de l'argent ou quoi que ce soit que l'on a par vol, prêt, dépôt, etc., et qui appartient à un autre. Le débiteur doit acquitter sa dette avant de faire du bien à ses parents, à moins que ceux-ci ne soient dans une nécessité telle qu'elle légitimerait l'appropriation du bien d'autrui. Et encore, ne faudrait-il pas que le premier ayant droit fût dans un égal besoin, car alors il faudrait faire appel à d'autres considérations pratiques, puisque en pareille matière, la diversité des cas ne permet pas l'application d'une règle absolue. Mais il n'y a pas au sens strict de règle absolue. Dans un second cas, la dette, ce qui est dû, appartient bien au débiteur. Par exemple, s'il ne s'agit pas de stricte justice, mais de reconnaissance d'une certaine égalité morale à rétablir. Or, plus que tout autre bienfaiteur, nos parents ont droit à une reconnaissance, donc avant tout autre, à notre bienfaisance. À moins d'une exception légitime créée par le besoin particulier de notre bienfaiteur, ou le bien public, le bien commun, civil ou religieux. Dans les autres cas, il faut mettre en regard le degré de l'union, la grandeur du bienfait, et en l'absence de règles générales, s'en remettre à la prudence ou sagesse pratique. En laissant tout le temps la possibilité du don de conseil. Alors, dernier point. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile. Alors, quand on a affaire à des gens qui sont mus par le Saint-Esprit, ordinairement, le Saint-Esprit les mettra toujours devant des cas extrêmes. Donc, ils seront devant des pauvres qui ont absolument besoin immédiatement. Donc, ils ont quelque chose, ils le donnent tout de suite. Leur dette, ils les laissent derrière. Alors c'est affolant pour tous les amis, parce que les amis disent un jour il faudra payer ses dettes de l'ami. C'est pour ça que derrière, il y a toujours un petit conseil intéressé. Alors, dernière objection. On doit aimer ses parents plus que ses enfants. Et malgré cela, on doit faire du bien à ses enfants plus qu'à ses parents. Car ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents. Alors ça, c'est la fameuse chose, n'est-ce pas ? L'ordo caritatis en famille, c'est pas commode du tout, dans les saintes familles. Hein. Les parents ont le caractère de... Les parents, la réponse à Thomas, les parents ont le caractère de supérieur. Leur amour s'exprime donc par la bienfaisance pour leurs enfants, comme celui des enfants par le respect envers leurs parents. Cependant, dans un cas d'extrême nécessité, ce n'est pas nos enfants, mais nos parents qu'il faudrait secourir de préférence, par devoir de reconnaissance pour les bienfaits dont ils nous ont comblés. Oui, parce que l'amour monte toujours. Hein. Oui. L'amour du supérieur est toujours plus grand que l'amour de l'inférieur. Vous aimez vos parents comme une source, et vous aimez les enfants comme des conséquences, des effets. Et donc, l'amour à l'égard des parents est quelque chose de plus grand, plus noble. Mais les bienfaits à l'égard des enfants. Oui. Il y a deux ordres différents qui se conjuguent, et là on voit très bien. Et vous voyez, c'est intéressant, parce que là on voit de nouveau la différence entre un ordre objectif et l'exercice par rapport à ceux qui sont plus immédiats. Bon.
Curière, 25 octobre 1984, session du Père Marie de Philippe sur la charité, première conférence.
Et vous terminez aujourd'hui ce traité de la charité. Ce qu'il faut, paraît-il, que ce soit terminé avec la charité. Alors je vous rappelle ce que saint Thomas nous dit donc à la question 27. Nous avons maintenant à étudier l'acte de la vertu de charité. Donc il a étudié précédemment ce que représentait le point de vue de la vertu de charité dans le tome 1er. Il va étudier donc l'acte principal de charité, puis les effets de la charité. Ce que nous avons déjà vu, n'est-ce pas ? Et l'effet de la charité, c'est premièrement la joie. Il nous faut maintenant étudier, question 28, les effets produits par l'acte principal de la charité, qui est amour ou dilection. D'abord les effets intérieurs, qui sont la joie, la paix, la miséricorde. Ensuite, les effets extérieurs. Et les effets extérieurs, ça représente le point de vue de la bienfaisance. Pour que vous puissiez bien saisir la différence de cette question, il faut étudier maintenant, donc question 31, il faut étudier maintenant les actes ou effets extérieurs de la charité. Ce sont la bienfaisance, l'aumône qui fait partie de la bienfaisance, la correction fraternelle qui est une espèce d'aumône. Hein, c'est beau, la correction fraternelle qui est une espèce d'aumône. Donc quand vous recevez la correction fraternelle d'une sœur ou d'un frère, c'est une aumône. Alors ouvrez bien les mains pour en recevoir le plus possible, puisque pour que l'aumône soit importante. Alors c'est ça que j'ai envie de voir avec vous. C'est cette aumône de la correction fraternelle. Parce que c'est quand même très important. C'est pas si commode que ça. C'est plus facile de faire l'aumône que de faire la correction fraternelle. Alors, vous voyez bien, pour que vous ayez un petit peu la vue d'ensemble de tout ce que représente ce grand traité de la charité chez saint Thomas, qui prend une place très importante. C'est donc au début de la Secunda Secundae où saint Thomas étudie la vertu de foi, d'espérance et de charité. Et à propos de la charité, ce qu'elle est, son objet, ses actes. Donc, ce qu'elle est, on l'avait vu, vous vous souvenez, les deux grandes analogies que prend saint Thomas. Toujours, quand on voit saint Thomas, il faut saisir les deux analogies qu'il prend. En tant que théologien, le mystère comme tel échappe complètement à toute notre intelligence. On ne peut dire que le commodo non sit. Comment il n'est pas ? La théologie ne supprime pas la foi, au contraire, la théologie permet à la foi d'être plus pure. La théologie est une purification pour permettre à la foi de s'exercer d'une manière plus contemplative. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il est bon, même pour des moines et des contemplatifs, de faire un peu de théologie. Parce qu'autrement, l'imaginaire s'en empare. Évidemment, l'Esprit Saint peut très bien nous dispenser complètement de faire une théologie acquise. Ça, c'est très très sûr. Quand l'Esprit Saint purifie par ces purifications infuses, alors on n'a pas besoin. Et c'est vrai, il faut le reconnaître. C'est des béquilles, la théologie. Des béquilles, on en a besoin. Le Saint-Esprit veut qu'on prenne le grabat, même quand on est guéri. Et on doit porter le grabat le jour du sabbat, il ne faut pas l'oublier. Et alors, on prend les béquilles. Alors, la théologie acquise, c'est une béquille. C'est quelque chose qu'on acquiert et qui est une purification active pour permettre à notre foi de pouvoir s'épanouir d'une façon toute contemplative. Autrement, il y a les brouillards matinales et vespertinales, n'est-ce pas ? Et alors, c'est l'imaginaire qui s'en empare. Et alors, l'imaginaire remplace le Saint-Esprit. Et quand l'imaginaire est présent, le Saint-Esprit fuit. C'est très, très curieux, ça. C'est extraordinaire de voir ça. C'est que je crois que Saint-Esprit a laissé l'imaginaire à Marie. C'est le Capharnaüm. Et alors, elle laisse à la Vierge Marie le soin de purifier l'imaginaire. C'est très curieux. Mais c'est très souvent comme ça. C'est ça qu'il faut consacrer son imaginaire à Marie. Parce que le démon veut toujours s'en emparer. Vous savez, c'est le Capharnaüm. Il est très à l'aise dans l'imaginaire, le démon. Et il le laisse à Marie parce que Marie, c'est de l'ordre de la disposition. Elle est l'instrument du Saint-Esprit. Donc, elle dispose et elle achève. Et le Saint-Esprit, lui, purifie notre foi pour que notre foi puisse s'exercer d'une façon contemplative. Pourquoi la plupart du temps, la foi ne s'exerce pas d'une façon contemplative ? C'est parce que la foi est enveloppée d'imaginaire. Alors, une foi enveloppée d'imaginaire retombe sur le point de vue des activités du facere. On fait quelque chose, on est content. Alors que le propre de la foi, c'est d'émerger au-delà pour être une attente de la vision béatifique. Et alors là, vous avez l'alliance la plus profonde de la foi et de l'espérance, sous le souffle de la charité, pour être une attente de la vision béatifique. La foi contemplative, c'est cette attente de la vision béatifique, c'est ce désir ardent de la vision béatifique. Et ça, c'est l'exercice tout à fait divin de la foi, grâce au don d'intelligence, de science, et en dernier lieu, le don de sagesse. Et c'est très important de voir que tous les dons du Saint-Esprit font cette alliance profonde des trois vertus théologales pour être dans cette attitude d'attente de la vision béatifique. L'attitude contemplative, c'est d'être en attente. Vous voyez l'évangile qui nous dit de ne pas dormir et d'être éveillé et d'être en attente du retour de l'époux. Et la contemplation permet d'être en attente du retour de l'époux. Qu'est-ce qui est l'ennemi numéro un de l'exercice des dons du Saint-Esprit ? C'est l'imaginaire. Et le démon le sait. C'est l'imaginaire. Alors à ce moment-là, l'imaginaire, c'est la grimace des dons du Saint-Esprit qui alourdit l'exercice des vertus théologales. Et les vertus théologales, à la place de s'exercer vers le sommet, vers l'attente de l'Esprit Saint, les vertus théologales s'exercent sous l'emprise de l'imaginaire. Et alors, l'imaginaire, progressivement, cache, voile l'objet propre des vertus théologales. Et il y a une retombée vers le bas. On ne perd pas la foi, on ne perd pas l'espérance et la charité, mais à la place d'être ordonné vers le retour du Christ, on tombe dans le messianisme temporel. Et le messianisme temporel, c'est justement construire la maison d'en bas, et non pas construire la maison d'en haut. Un monastère, c'est l'attente de la Jérusalem céleste. C'est pour ça que ça ne se construit pas de la même manière qu'une maison de la terre. C'est une attente de la vision béatifique. C'est une attente de la Jérusalem céleste qui descend d'auprès de Dieu. Et tout doit être dans cette attitude de préparation au retour de l'époux. Il doit y avoir un grand trou dans le plafond pour le retour de l'époux. Et qui fait que, de fait, on est tout entier en attente vis-à-vis du retour du Christ. C'est très important. C'est pour ça que c'est toujours inachevé. Parce que l'achèvement d'un monastère, c'est le retour de l'époux. Et c'est jamais terminé. Ça, c'est symbolique pour comprendre comment les vertus théologales doivent être en attente du retour de l'époux. Alors, au terme de l'étude des vertus théologales, foi, espérance, il y a la charité, saint Thomas donc nous montre bien que c'est d'abord ce qu'elle est, alors les deux analogies qu'il donne, l'analogie de l'amitié et l'analogie de la vertu. Ce sont les deux analogies que nous avons vues, si vous vous souvenez bien. Deux analogies qui, selon le point de vue philosophique, sont irréductibles. L'amitié n'est pas une vertu, mais dans l'agapé, dans la caritas, dans la charité, elle est amitié divine et elle est vertu. Et on doit toujours maintenir les deux. Vous devez dire que la charité est une vertu théologale. Et quand vous dites que c'est une vertu théologale, vous dites que c'est un habitus qui est en vous. Et que vous pouvez l'exercer quand vous voulez. C'est quand même très très important ça. Oui, quand on dit « Ah non, je peux plus. » Ah oui, c'est l'imaginaire ça. C'est l'imaginaire qui vous fait dire que vous ne pouvez plus. Mais vous pouvez toujours. Vous pouvez toujours faire un acte de charité. C'est une vertu. Elle est à votre disposition. Les dons du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les exercer quand vous voulez. Ça, c'est toute la différence. Mais vous pouvez l'exercer quand vous voulez. Vous voyez, une amitié, je ne l'exerce pas quand je veux. Il faut la présence de l'ami. Alors, vous serez capable de dire, ah non, voulez-vous, moi, je n'ai pas la grâce. C'est comme disent les artistes, aujourd'hui, je ne peux rien faire, je n'ai pas la grâce. Alors, il vaut mieux dormir. Alors on dort toute la matinée parce qu'on n'a pas la grâce. On n'est pas en état de. Alors on attend. Et on attend indéfiniment le retour de l'époux. Si on fait ça, vous voyez, on oublie que la charité est une vertu. Et que la charité étant une vertu, je peux toujours l'exercer. Je l'exerce dans l'aridité, comme si l'époux n'était pas là. Mais je sais qu'il est là, par la foi. Je sais que lui ne dort jamais, et donc il est toujours éveillé, et qu'il vient, et qu'il est là qu'il vient, mais je n'entends pas. Je n'entends pas parce que je suis un peu sourd. C'est pas qu'il ne vient pas, mais c'est moi qui suis un peu sourd. Je suis encore trop pris par le point de vue, si vous voulez, imaginatif. Je suis pris dans le cocon imaginatif, alors je n'entends pas. Et je n'entends pas le retour de l'époux. Et la foi me dit non, il vient. Et alors j'exerce ma charité, même sans les vertus théologales, même sans les dons. Je l'exerce en ramant. C'est dur, mais je l'exerce. Et le Saint-Esprit veut ça pour que notre volonté volonté devienne une bonne volonté. Paix aux âmes de bonne volonté. Et nous devenons une bonne volonté en ramant dans l'obscurité, en ramant dans la difficulté. C'est pour ça que c'est une vertu. Et cette vertu, elle est divine et elle s'épanouit en amitié. L'amitié dans ce qu'elle a de plus fort, c'est l'amitié de l'époux et de l'épouse. L'amitié dans ce qu'elle a de plus fort, c'est l'amour. On devient amoureux. Une véritable amitié nous fait amoureux, c'est-à-dire nous fait aimer au-delà de tout, inconditionnellement. On aime d'une façon plénière, totale. Ça, c'est l'amitié divine qui s'épanouit pleinement en nous et qui fait qu'on n'a qu'un seul désir, c'est de le voir. On est là tout attentif pour le voir. Alors, à l'intérieur de cette amitié, le don de sagesse nous montre que déjà, substantiellement dans cet amour, il y a le don de l'époux qui est là. Alors, considérer l'amitié, la charité en elle-même, c'est essayer de comprendre ces deux analogies. Saisir son objet, c'est de comprendre que c'est Dieu qui se donne lui-même, immédiatement. Dieu est amour. Et cet amour s'est exprimé, s'est manifesté à la croix. Il s'est livré.